Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. ESDM contribue à accroître les compétences en matière d'énergie solaire pour les délégations africaines. Banque Indonésia a souligné le mix politique pour faire face à l'incertitude lors du forum FMI-BM. Premier ministre des îles Salomon visite le groupe de travail de la marine indonésienne sur les visites portuaires 2024. Indonésie a reçu une réponse positive lors de la présentation au congrès de la FIG. Athlète de Wushu de Bekasi, Indonésie remporta l'or au championnat du monde. Service de santé de la marine indonésienne pour les citoyens des îles Salomon. Et Indonésie remporta un prix au concours Voice of Turan. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le Centre de développement des ressources humaines pour l'électricité, les énergies nouvelles et renouvelables et la conservation de l'énergie du ministère de l'énergie et des ressources minérales a organisé une formation sur l'énergie solaire pour les délégués de 4 pays africains. Le coordinateur du programme, Hertio Sembodo, a déclaré dimanche que cette formation a fourni des connaissances théoriques ainsi que des opportunités de pratique sur le terrain avec des visites de la centrale solaire de Cirata, PLTS, dans la région de Bandung occidentale et Surya Energy Indotama SA. Dans la ville de Bandung, la formation qui s'est déroulée du 21 au 26 octobre 2024 a réuni 13 délégués de Namibie, du Sénégal, de Tanzanie et du Mozambique, ainsi que 2 enseignants de Turquie. La formation est axée sur le secteur des énergies renouvelables, en particulier les panneaux solaires ou solaires photovoltaïques, SPV, qui vise à accroître les compétences des participants dans le secteur des énergies renouvelables. Le vice-gouverneur de Banque Indonésia, Filianingsih Hendarta, lors de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Washington, D.C., du 22 au 26 octobre 2024, a déclaré que la Banque Indonésia, BI, a souligné l'importance de la flexibilité dans le mix politique face à l'incertitude mondiale. Hendarta a également déclaré que Banque Indonésia a souligné l'importance des efforts visant à surmonter les retombées de l'économie mondiale sur les pays en développement. Au cours de la réunion, l'Indonésie et les pays du G20 ont convenu de poursuivre leur coopération pour surmonter les défis économiques mondiaux, notamment par le contrôle de l'inflation, la consolidation budgétaire et les réformes structurelles pour maintenir la stabilité macroéconomique et encourager la croissance économique. Le premier ministre des îles Salomon, Jeremiah Manel, a rendu visite au KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 à la jetée de Honiara dimanche. Le premier ministre Jeremy a exprimé son admiration pour la sophistication du navire hôpital de la marine indonésienne. Il a exprimé sa gratitude pour la visite du groupe de travail pour visite 2024 dans son pays. Il espère que les relations diplomatiques entre l'Indonésie et les îles Salomon continueront d'être maintenues. Au cours de cette visite, le commandant du groupe de travail pour visite 2024, le colonel de la marine Arif Prasetyo, a réalisé une série d'activités, notamment une visite des installations du navire et des services de santé pour la population des îles Salomon. Pendant ce temps, le chef du service d'information de la marine indonésienne, le premier amiral Imadewira Hadi Arsanta, a souligné que la mission de la Task Force vise à renforcer la diplomatie de défense avec les pays du Pacifique Sud. Lors du congrès 2024 de la Fédération internationale de gymnastique FIG, l'Indonésie a exprimé son engagement à soutenir le développement du sport, en particulier dans le domaine de la gymnastique. Le secrétaire adjoint chargé de l'amélioration des performances sportives au ministère de la Jeunesse et des sports, Mulyani Sri Suhartuti, a déclaré que le gouvernement indonésien est prêt à soutenir la tenue des championnats du monde de gymnastique artistique 2025 en Indonésie. Les championnats du monde de gymnastique artistique 2025 devraient avoir lieu à l'Indonésie Arena de Jakarta du 19 au 25 octobre de l'année prochaine. Cet événement devrait réunir environ 500 athlètes de 60 pays. L'athlète de Wushu de la région de Bekasi, Java Occidental en Indonésie, Tasha Ayu Puspadewi, a réussi à remporter une médaille d'or lors de la 3e Coupe du monde de Taolu, qui s'est tenue à Yokohama au Japon du 23 au 28 octobre 2024. Anta a rapporté dimanche que Tasha, qui a concouru dans le numéro Nankin, a réussi à remporter le point le plus élevé de 9773 devant les athlètes de Malaisie et de Hong Kong. Outre, alors Tasha a également contribué à une médaille d'argent dans le numéro Nandao, juste derrière l'athlète chinois. Dans sa déclaration, Tasha espère un plus grand soutien de la région Koni-Bekasi pour les athlètes qui continuent de se battre pour les arènes internationales pour rendre l'Indonésie fière. Le groupe de travail sur la visite portuaire 2024 a organisé dimanche un service de santé et un navire ouvert aux îles Salomon. RRI .co.id a rapporté que les activités menées au bord du KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 visent à renforcer la diplomatie de défense de l'Indonésie avec les pays du Pacifique Sud, ainsi qu'à réaliser des missions de paix. Le commandant du KRI Wahidin Sudirohusodo 991 Marine Colonel Edi Herdiana a expliqué que cette activité comprenait des dons de sang et des contrôles de santé pour les résidents locaux. En dehors de cela, KRI a également organisé un bateau ouvert pour la population des îles Salomon, offrant la possibilité de voir directement le navire hôpital de la marine indonésienne. L'Indonésie a remporté le prix des meilleurs ambassadeurs du pays lors du concours international de chant Voice of Turan au Turkestan, Kazakhstan, les 21 et 22 octobre 2024. Tempo a rapporté que lundi, Tararan, le représentant indonésien, a chanté de manière époustouflante des chansons en kazakh et basse indonésien, et portant des vêtements traditionnels balinais et kalimantan. Ce concours a réuni 16 participants de différents pays, l'Indonésie étant le seul représentant de l'ASEAN. L'ambassadeur d'Indonésie au Kazakhstan, son excellent Fajrul Rahman, a exprimé sa fierté pour les réalisations de Tararan et a apprécié le rôle du Purwacaraka Music Studio dans le soutien à la diplomatie culturelle indonésienne. On espère que la participation de l'Indonésie à cet événement renforcera les relations culturelles entre l'Indonésie et le Kazakhstan, ainsi que présentera la culture indonésienne sur la scène internationale. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Cédrita, bonsoir. Voici le commentaire dont le titre est « La crainte d'une guerre ouverte entre Israël et l'Iran s'ils n'arrêtent pas leurs attaques mutuelles ». Israël a attaqué l'Iran aux premières heures de samedi 26 octobre 2024. Bien qu'Israël ait déclaré que c'était une réponse à l'attaque de missiles iraniens contre Israël il y a quelque temps, beaucoup de gens pensent que l'attaque était une démonstration de la force israélienne dans les tensions au Moyen-Orient. Le gouvernement iranien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que cette attaque violait une fois de plus la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran et violait le droit international et la charte des Nations Unies. L'Iran utilisera toutes ses ressources et capacités pour répondre à cette situation, non seulement pour défendre la sécurité et les intérêts de l'Iran, mais aussi pour maintenir la paix et la sécurité régionale et internationale grâce aux actions d'Israël. L'attaque israélienne a été condamnée par un certain nombre de pays, notamment par l'Indonésie, qui a fermement condamné l'attaque. L'Indonésie considère l'escalade et l'expansion de ce conflit comme une violation flagrante et une forme de mépris d'Israël pour le droit international. L'attaque israélienne pourrait potentiellement accroître l'intensité de la guerre au Moyen-Orient. Beaucoup craignent que la réponse de l'Iran prenne la forme d'une attaque similaire, voire plus importante. Si cette action consistant à s'attaquer les uns les autres ne peut pas être contrôlée, alors le potentiel de guerre ouverte entre les pays est très grand. Et il est certain qu'elle impliquera également d'autres pays. Même si cela n'est pas suffisamment important, l'ONU, en tant qu'institution la plus importante au monde, doit apporter une réponse rapide, spécifiquement axée sur l'escalade de ce conflit, à la fois par l'intermédiaire de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Les pays proches des deux partis opposés devraient également pouvoir participer à la réduction des tensions au Moyen-Orient. Par exemple, les États-Unis devrait être capable de contenir Israël avant qu'il n'attaque plus l'Iran. En fait, tous les pays, y compris l'Indonésie, ont la même obligation d'assurer l'établissement de la paix et de la stabilité dans le monde. On ne peut pas nier que les attaques mutuelles entre Israël et l'Iran font partie de l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas en Palestine. C'est pourquoi la paix en Palestine doit continuer à être encouragée afin que le conflit au Moyen-Orient ne continue pas à s'étendre. La réalisation d'un État palestinien indépendant dans le cadre de la solution à deux États, comme indiqué dans la résolution de l'ONU, est le seul effort qui puisse être fait pour instaurer la paix dans la région. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 28 octobre 1928, naissance de l'engagement historique de la jeunesse. Le 28 octobre 1928, à Jakarta, le deuxième congrès de la jeunesse produit l'engagement de la jeunesse. Un engagement historique qui a uni la jeunesse indonésienne de divers horizons. Cet engagement déclarait que les fusions de sang, la nation et la langue de l'unité étaient l'Indonésie. Le congrès a été initié par l'Association des étudiants indonésiens PPPI et vise à renforcer le sentiment d'unité et de nationalité qui s'est développé dans le cœur des jeunes. Le congrès a eu lieu dans trois lieux, à savoir le catholique Chongenlingen Bond Building, Us Java Bioscope et l'Indonésische Club Gebouw. La décision du congrès a été lue par Sugondo Joyo Puspito, connu plus tard sous le nom de l'engagement de jeunesse. Chers auditeurs, passons maintenant l'histoire d'aujourd'hui à l'événement du 28 octobre 2008, décès de l'acteur et réalisateur indonésien Kusno Sujarwadi. L'acteur et réalisateur Kusno Sudjarwadi est décédé le 28 octobre 2008 à sa résidence d'époque Java occidentale. Il est décédé à l'âge de 77 ans des suites de complications liées au diabète. Kusno Sudjarwadi est connu comme un acteur et réalisateur indonésien qui a remporté le prix du meilleur acteur au FFI grâce au film Rio Anaku 1973 et Perkawinan 1972. Outre sa carrière d'acteur, Kusno a également produit et réalisé le film Chowo Masakini 1978. L'un de ses rôles les plus connus est dans le film Tangan Tangan Kotor, 1963. Chers auditeurs, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 28 octobre 2009, le lancement de la fusée Ares-1-10 de la NASA. Le 28 octobre 2009, la NASA a lancé avec succès la fusée Ares-1-10, le premier test du programme Ares-1 qui fait partie du programme Constellation. Cette fusée a été développée comme système de lancement pour le vol humain dans l'espace et a été lancée depuis le Kennedy Space Center, Floride. Ares-1-10 mesure 99 mètres de haut et s'est équipée de 700 capteurs pour tester la stabilité et les performances lors du lancement. Ce test vise à garantir la stabilité d'Ares-1 conçu pour transporter la capsule Orion sur les futures missions spatiales. La fusée Ares-1-10 a atteint avec succès une hauteur de 40,2 km à environ 2 minutes après le lancement. Ce test est une partie importante des préparatifs de la NASA pour le système de transport spatial de nouvelle génération qui devrait remplacer la navette spatiale en 2015. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui.
Pada cintaku.
première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Saya cerita produk subang tak bersih dong ngomong Indonesia yang perlati teka l'Indonésie kongdam latak israelien kontra l'Iran. L'Indonésie kongdam fermement l'agression militaire d'Israël kontra l'Iran qualifiant cette action de violation des sanctions internationales. Dans une déclaration officielle publiée sur le compte @kemlu_ri samedi le 26 octobre, le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a affirmé que l'escalade et l'élargissement du conflit constituaient une violation flagrante du droit international. Il a souligné également le mépris total d'Israël pour ses cadres juridiques. Le ministère a également appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions et de conduire à une plus grande instabilité dans la région. L'Indonésie réaffirme que l'occupation illégale des territoires palestiniens par Israël demeure la cause profonde des conflits au Moyen-Orient. L'Indonésie estime que la seule façon de créer la paix dans la région est de créer un État palestinien indépendant dans le cadre d'une solution à deux États. Par conséquent, l'Indonésie souligne qu'il est important que le Conseil de sécurité de l'ONU envisage de prendre de nouvelles mesures pour mettre fin à l'occupation illégale. L'Indonésie a également exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à s'acquitter de ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies pour mettre fin dès que possible à toutes les formes de violence commises par Israël, y compris les actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza et les attaques contre les troupes de la FINUL au Liban. Tôt samedi matin, Israël a mené des frappes aériennes sur des installations militaires iraniennes en réponse à l'attaque de missiles iraniens contre Israël le 1er octobre. L'attaque de missiles iraniennes du 1er octobre était une réponse à l'assassinat du leader politique du Hamas à Téhéran en juillet et à l'assassinat du chef de Hezbollah Hassan Nasrallah à Beyrouth le mois dernier. Pendant ce temps, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré samedi que, sur la base de son droit inhérent à une défense légale, également inscrit dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies, l'Iran a le droit et l'obligation de se défendre contre l'agression israélienne. Les attaques mutuelles entre Israël et l'Iran se sont intensifiées en 2024 après que Tel Aviv a bombardé l'ambassade iranienne en Syrie le 1er avril, tuant un certain nombre de hauts responsables militaires. L'Iran a pris des mesures de légitime défense deux semaines plus tard en lançant des centaines de drones et de missiles balistiques sur l'Israël. C'est Rita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jika dipelihara, cinta bisa sempurna. Bila kau mau berkorban, cinta itu anugerah. Jangan kau sia-sia, cinta itu mengerti. Mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu.
di manalah cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang datang juga luar biasa. Tertawa juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata,
yang nyata
juga luar biasa.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, le 28 octobre est célébré par toute la nation indonésienne comme la journée de l'engagement de la jeunesse. L'engagement de la jeunesse est un engagement de la jeunesse indonésienne qui prétend partager en seul sang la terre indonésienne, prétendre être une seule nation, la nation indonésienne, et défendre la langue de l'unité, l'indonésien. Cet engagement était le résultat de la décision du 2e congrès de la jeunesse qui s'est tenu les 27 et 28 octobre 1928. Ce congrès a été initié par l'Association des étudiants indonésiens, PPPI, et a réuni des organisations de jeunesse telles que Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Batak Sebon, Pemuda Indonesia, Jong Islami Tenbon, Jong Celebes, Sekarukun, Jong Ambon et la jeunesse de Betawi. Le deuxième congrès de la jeunesse s'est tenu dans un bâtiment situé sur la rue Kramat Raya numéro 106 au centre de Jakarta. Ce bâtiment est maintenant un musée appelé le Musée du Serment des Jeunes. Le bâtiment Kramat Raya 106 a été utilisé comme musée car il présente une série de voyages historiques et est un témoin du long processus de formation de l'esprit de lutte pour l'indépendance indonésienne. Sur le lieu où s'est tenu le deuxième congrès de la jeunesse, les piliers fondamentaux de l'unité indonésienne ont été discutés, formulés puis promis. Ces auditeurs, le musée du Serment des Jeunes comprend un bâtiment principal composé d'un proche, d'un salon, de 5 pièces et d'une salle ouverte ou salle de réunion. Celui-ci possède une collection de photos et d'objets liés à l'histoire de l'engagement des jeunes de 1928, ainsi que des activités au sein du mouvement national de la jeunesse de l'Indonésie. en 2007, l'ensemble des collections du musée s'est levé à 2866 collections. Parmi ces collections, il existe plusieurs collections intéressantes comme bande dessinée numérique du Serment des jeunes et le violon de W.R. Supratman. W.R. Supratman est le compositeur de la chanson Indonesia Raya. Avec ce violon, il a chanté pour la première fois la chanson Indonesia Raya au 2e congrès de la jeunesse. Ces auditeurs, les collections appartenant au musée du Serment des jeunes sont exposées dans un espace d'exposition permanent dont la disposition suit la chronologie des événements du Serment des jeunes afin de retracer la série d'événements du Serment des jeunes. Les collections comprennent entre autres une carte de l'Indonésie avec l'emplacement des organisations régionales de jeunesse, carte de Jakarta montrant le lieu où s'est tenu le 2e congrès de la jeunesse et son état actuel. Le comité du 2e congrès de la jeunesse, organisation des participants au congrès de la jeunesse et maquette du bâtiment du Serment des jeunes. Parallèlement à l'espace d'introduction, il existe un espace pour la croissance des organisations de jeunesse. Dans cette salle, la période initiale de croissance des organisations de jeunesse est décrite, à commencer par l'Association indonésienne aux Pays-Bas. Dans cette salle, vous pourrez également trouver des reliefs, je veux dire des reliefs, sous forme d'équipements de reconnaissance utilisés dans les années 1920. À l'étage se trouve la salle du premier congrès de la jeunesse. Dans cette salle, on expose les collections liées au premier congrès de la jeunesse indonésienne. Ensuite, il y a la salle du 2e congrès de la jeunesse. Dans cette salle est exposée une collection illustrant les événements du 2e congrès de la jeunesse indonésienne. Ensuite, il y a la salle de la jeunesse d'Indonésie. La salle de l'association des étudiants indonésiens, PPPI, et les salles thématiques. La salle de la jeunesse d'Indonésie présente une collection sur les mouvements de jeunesse après la promesse du serment des jeunes. La salle PPPI présente plusieurs collections liées à l'association des étudiants indonésiens après le 2e congrès de la jeunesse indonésienne. La salle thématique se compose de deux salles situées dans le pavillon du bâtiment Kramat 106. Cette salle présente plusieurs collections liées aux activités de jeunesse de 1945, 1966 et 1998. C'est Zurita, c'était le magazine Culture Opak ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk kenangan indah. Kau melukis aku.
lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu. Ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Parlons l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Bima. Di Bima, en français, à Bima. Je vais vous présenter un monologue dont le titre est Di Dalam Kamar. Di dalam kamar signifie dans la chambre. Ce monologue a été dit par Chris, un vlogueur australien, alors qu'il enregistrait les conditions de la chambre d'un hôtel autour de Port Sapé sur l'île de Sumbawa dans la province de Nusa Tenggara de l'Ouest. Chris a décrit l'état de la chambre dans laquelle il a passé la nuit dans un hôtel. Écoutons le monologue.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Di dalam kamar. Je répète, di dalam kamar, en français, dans la chambre. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Di dalam. Di dalam signifie dans. Kamar. Kamar, en français, la chambre. Meja. Meja signifie la table. Lemari. Lemari signifie l'armoire. Televisi. Televisi signifie la télévision. AC. AC signifie le climatiseur. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Signifie dans la chambre il y a une table, une armoire, une télévision et un climatiseur. Menempuh. Menempuh signifie passer. Perjalanan. Perjalanan signifie le voyage. Kabupaten Bima. Kabupaten Bima signifie le quartier de Bima. Menginap. Menginap, en français, passer la nuit. Pelabuhan Sape. Pelabuhan Sape. En français, le port Sape. Kapal. Kapal signifie le navire. Dans le monologue, vous entendez la phrase « Di dalam kamar, ada meja, lemari, televisi, dan AC. » Je répète. Di dalam kamar, ada meja, lemari, televisi, dan AC. Ce qui signifie dans la chambre, il y a une table, une armoire, une télévision et un climatiseur. Dans cette phrase, il y a l'expression « di dalam » en français « dans » qui a pour fonction de marquer un lieu, à savoir une pièce qui a contenu. L'expression « di dalam » signifie « dans ». Dans cette phrase, ça désigne une chambre dans un hôtel qui contient une table, une armoire, une télévision et un climatiseur. Un autre exemple. Écoutons des exemples d'utilisation de l'expression di dalam. Di dalam signifie dans une autre phrase. Di dalam kapal ada restoran. Di dalam kapal ada restoran signifie dans le navire il y a un restaurant. Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus. Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus signifie Chris garde son appareil photo dans un sac spécial. En indonésien, il existe différents termes pour désigner les lieux de séjour. En plus de hôtel, je répète, hôtel, en français l'hôtel, il y a aussi wisma. Wisma, en français une maison d'hôte. Et losmen. Losmen signifie l'auberge. Penginapan. Penginapan, en français l'hébergement. Pondok. Pondok, en français le cottage. Et resort. Et resort, en français ressort. La différence de termes porte sur les caractéristiques de l'établissement et sur sa forme. Wisma. Wisma, en français une maison d'hôte. Losmen. Losmen, en français l'auberge. Et penginapan. Penginapan, en français l'hébergement, offre généralement des installations moins complètes que hôtel. Je répète, hôtel, en français l'hôtel. Tandis que pondok, pondok, en français le cottage, et resort. Resort, en français le resort, ont une forme différente de l'hôtel. Pondok, pondok signifie le cottage, et resort. Resort signifie le resort et généralement une auberge composée de plusieurs bâtiments en section. Avant de terminer, parlons l'indonésien d'aujourd'hui. Écoutons encore une fois le monologue.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Chers amis, voilà l'émission de Parlons l'Indonésien d'aujourd'hui, dont le sujet est Di dalam kamar. Di dalam kamar, en français dans la chambre. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Sakit hati, berhenti atur nafas sendiri. We just slow down. Damn son, harus lebih tenang and take time. Harus pikir panjang, masalah ada untuk dilawan. Coba fokus, buka mata, lihat peluang.
Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpimu.
I stick to the plan and I don't give a damn. You don't need to worry. Dengan cara baru lah, lu yang berlalu biar jadi masalah, lu yang negatif biar jadi yang enak, lu ayo coba freeze harus lebih dingin, peace tolong didamain, oh cheers tolong dituangin lebih santai dikit kalau panas harus cooling down.
Buka mata lihat dirimu, tak masalah gapai mimpi.
Stick to the plan. Don't worry, we gonna be alright.
Sometimes you need to slow.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Magazine Musical avec moi, Audrey. Cette fois, je vais vous présenter une chanson de Kroncong intitulée Bangun Pemudi Pemuda, chantée par Kroncong Project Strada, Pasar Minggu. Sur le terrain, la chanson Bangun Pemudi Pemuda est l'une des chansons nationales indonésiennes qui est souvent chantée lors d'événements commémorant les fêtes nationales comme la journée de l'engagement de la jeunesse. Cette chanson contient également un message adressé aux jeunes femmes indonésiennes en tant que successeurs de la nation et de l'État, de ne jamais abandonner et de toujours vouloir aller de l'avant et conserver un caractère noble et un comportement raffiné. Cette chanson a été créée par Alfred Simanjuntak, né le 8 septembre 1920 à Parlombuan, Tapanuli Nord, Sumatra du Nord. Lorsqu'il a écrit la chanson Bangun Pemudi Pemuda, Alfred Simanjuntak avait 23 ans. À cette époque, il travaillait comme enseignant à l'école populaire indonésienne Parfaite de Semarang. Pour ses 60 années de service dans le domaine de l'éducation, A. Simanjuntak a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Saint-Jean. Bon, chers auditeurs, voici Kroncong Project Strada Pasar Minggu va chanter une chanson Kroncong intitulée Bangun Pemudi Pemuda. Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.